Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur la radio Syllab, la radio sauvage des campus rennais. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire du lundi soir. Aujourd'hui, on est bien accompagné en studio. Je suis avec Cess. Salut Cess.
Salut Clara.
Avec Dan à la technique. Salut Dan.
Merci de nous faire entendre. Notre approche de la littérature, elle se veut actuelle, décomplexée et contre les clivages de fond comme de forme. On réalise des lectures, voire même des mises en son. On partage des chroniques qui viennent du cœur. Ou encore, on donne le micro à celles et ceux qui participent à la vie littéraire.
Et laissez-nous vous dire que ça revêt pas mal de corps de métier. Il y a bien sûr les auteuristes, autant d'artistes, poètes et faiseuses d'histoires qui façonnent les mots et cisèlent les récits. Il y a les gens qui vous donnent accès aux livres, des libraires, des bibliothécaires, des médiathécaires. Un peu en amont de ces gens-là, on a aussi les gens de l'édition.
Mais aujourd'hui, on reçoit des personnes qui permettent de fêter la littérature.
Bonsoir Lucie Mildrog et Mona Journeau qui sont avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes venus nous parler du festival Étonnant Voyageur en tant que salarié prenant part à son organisation, l'une en tant que coordinatrice de la programmation et directrice de production, c'est vous Lucie, et l'autre en tant que chargée de développement et de projet jeunesse, ça c'est vous Mona.
Oui.
Mais avant d'aller plus loin, une petite page d'agenda culturel.
Nietzsche a dit...
L'édito tu écouteras, jeune padawan.
Vous connaissez sûrement l'Hôtel Pasteur, mais est-ce que vous êtes déjà allé dans le Fab Lab qui se trouve dans l'ancienne fac dentaire ? Eh bien, c'est peut-être l'occasion de le découvrir.
Le 23 mai, de 14h30 à 17h30, l'Edula Pasteur accueille Moriocho, l'association rennaise qui est née en 2022 pour promouvoir et dynamiser la vie culturelle liée au manga à Rennes. C'est dans ce but qu'elle propose un atelier de doublage manga. En une après-midi, il faudra prêter ta voix à ton personnage préféré, découvrir les arcanes de l'interprétation vocale et de la technique de la bande rythmo. L'atelier est gratuit et en accès libre, sans réservation préalable requise.
Mais si vous préférez rester muet, mais pour autant partager des histoires, il y a une alternative pour vous. L'atelier Stop Motion du 25 mai. De 15h à 17h et en compagnie de Marie, médiatrice à l'Edula Pasteur, vous pourrez vous essayer à la réalisation d'un court-métrage en utilisant du papier découpé et les équipements du Fab Lab. Une fois que vous aurez appris à les manier, vous pourrez revenir les manipuler en toute autonomie sur les prochains Open Lab.
On ne pouvait pas imaginer cet agenda culturel sans mentionner le voyage et la ville de Saint-Malo. Du 16 au 23 mai, vous pourrez participer à l'Étonnant Voyage, la marche solidaire pour les droits fondamentaux. Vous ne connaissez pas ? On vous cite leur appel au soutien pour cette marche citoyenne, artistique et solidaire.
Notre objectif, montrer la créativité et une communauté d'intérêt entre toutes les personnes qui sont traitées de manière indigne, qu'elles soient françaises ou étrangères. Cette marche s'inscrit en résonance avec une exaspération croissante, un sentiment d'injustice sociale profond qui touche de manière aveugle toutes les catégories de personnes en situation de précarité. Dès lors, nous refusons d'être cloisonnés entre personnes exilées et de nationalité française et nous marchons ensemble pour la dignité de toutes et tous. Cette marche est également un projet artistique tant dans sa préparation que dans sa réalisation pour donner la parole à celles et ceux qu'on n'écoute jamais.
Si vous êtes sensible à cet appel, rendez-vous le samedi 16 mai pour la journée Famille à la plage à Saint-Malo. La marche partira de là-bas et va ensuite bivouaquer, notamment dans les communes d'Evran, Aidé ou encore Béton. Les marcheurs et marcheuses arriveront le samedi 23 mai à Triangle, à Rennes, où ils seront accueillis par le Congrès national de la Ligue des droits de l'homme.
Ensuite, il sera temps de retourner à Saint-Malo, car les 23, 24 et 25 mai se tiendra le festival Étonnant Voyageur, auquel nous consacrons notre émission de ce soir. Ce soir, on est donc accompagné de Lucie Mildrog, directrice de la production et coordinatrice de la programmation, et de Mona Journeau, chargée de développement et de projet jeunesse. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que pour commencer, vous voulez nous parler un petit peu de vos missions sur le festival et un peu de comment vous êtes entrée dans cette grande valse ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Lucie, donc j'ai intégré l'équipe fin 2009, hein, donc ça remonte vraiment à loin. Voilà, j'ai donc travaillé avec Michel Lebris, Mélanie Lebris, Maëtte Chantrelle, enfin toute l'équipe qui a évolué du coup depuis le décès de Michel. Mes missions ont été diverses et variées dans le cadre de l'association et du festival. J'ai intégré l'équipe pour monter une revue, figurez-vous. Donc le festival avait cette grande ambition et Michel y tenait beaucoup. Bon, la revue Gulliver.
Alors, autre chose.
Voilà, Michel avait effectivement cette revue Gulliver et c'était une idée forte de sa part. Au moment où les MOOC en fait ont explosé, etc., il s'est dit mais pourquoi on ferait pas une revue, puisque finalement notre festival fonctionne comme une revue, avec en appelant en fait, comme le festival forme une énorme famille, une famille d'auteurs, une famille du comité de programmation qui navigue, etc. L'idée c'était de faire en fait la revue du festival, mais avec une périodicité tous les 3 mois, comme naissaient les MOOC à l'époque. Bon, pour diverses raisons, notamment, on n'avait pas une capacité énorme d'équipe, et puis on n'a pas développé ce projet, enfin bref. Donc du coup, moi j'ai accompagné la programmation depuis ses débuts, et en parallèle, je m'occupais de toute la communication. Et puis petit à petit, comme on a fait des festivals à l'étranger, etc., mes missions se sont vraiment focalisées sur de la programmation, de la coordination de programmation et de la production. Et du coup, maintenant, j'occupe vraiment ce poste à part entière. Donc, je mène toute cette joyeuse équipe vers le festival, en coordonnant à la fois en interne et puis aussi avec la présidence, avec notre comité de programmation, le délégué à la programmation, etc. Donc, pour coordonner tout ça avec l'équipe.
Et côté Mona Journaux, comment ça se passe?
Moi, du coup, je suis plutôt une nouvelle venue dans l'équipe, parce que ça va faire 3 ans que j'ai rejoint Étonnant Voyageur. Je suis arrivée par la porte Salon du Livre, où je m'occupais du coup de la coordination en interne avec les éditeurs sur la partie Salon. Et puis, Lucie m'a proposé de reprendre le poste de programmation jeunesse. Et c'était un moment où il y avait une idée de transition dans le festival. Justement, on en parlait de peut-être repenser le festival jeunesse en termes des formes qu'on y proposait, de communication autour de toutes les offres qu'il y a pour les enfants, les familles. Donc c'est vraiment une programmation qui va de 3 ans jusqu'aux jeunes adultes. Donc là, ça va faire 2 ans que je suis à ce poste, qui du coup nécessite tout un travail avec les éditeurs en amont, les auteurs, d'essayer de penser à des nouvelles formes avec eux, comment montrer que la littérature jeunesse, que ce soit les albums, des romans, c'est aussi des formes vivantes qui peuvent s'exprimer sous forme de lecture dessinée, lecture musicale, d'atelier. Enfin, voilà, c'est vraiment comment repenser des formats et inclure le public et la jeunesse dans le festival.
Et j'ajouterais juste qu'on a aussi, et que Mona organise et planifie et coordonne, on a 2 grandes journées scolaires. Oui. Je te laisse en parler.
Oui, j'ai pas parlé. Enfin, du coup, je...
Ah, vous inquiétez pas, c'est au programme.
Okay.
Mais on peut dire 2 mots.
2 mots, c'est que du coup, on a aussi une des actions à l'année, parce que le festival se résume pas à ces 3 jours pour la jeunesse. On a un grand programme de médiation culturelle à destination du coup des publics scolaires de la primaire à l'université, avec notamment 2 grandes journées scolaires qui sont les 2 journées précédant le festival, où du coup des classes de collège, lycée et primaire ont tout un programme pédagogique où ils lisent des œuvres en amont, ils les adaptent donc sous forme de carnets, sous forme de journaux. Il y a tout un travail aussi plastique avec les enseignants. Et enfin, ils rencontrent l'auteur ou l'autrice dont ils ont étudié l'œuvre et adapté l'œuvre toute l'année. Et donc du coup, ça c'est vraiment un travail d'accompagnement des enseignants et des classes sur toute l'année, donc, dont je m'occupe, donc de septembre aux quelques jours avant le festival.
Alors, maintenant qu'on vous connaît un peu plus, vous, si on présentait le festival. La semaine dernière, on listait des nombres premiers jumeaux dans notre émission, alors j'ai eu envie de commencer la présentation des Étonnants Voyageurs en commençant par quelques chiffres qu'on peut trouver sur votre site. Donc aujourd'hui, le festival, c'est 150 auteurs et autrices du monde entier, 250 rencontres, débats et lectures, 50 films et documentaires, le tout réparti sur 10 lieux à Saint-Malo, avec 1 festival de la jeunesse, 1 salon du livre qui coûte 0 € à l'entrée. Mais il y a aussi les immanquables cafés littéraires, ainsi que des spectacles et des ateliers, même des podcasts qui s'enregistrent en public, mais tout ça, c'est pas chiffré, alors on se contentera de dire qu'il y en a plusieurs. Est-ce que j'oublie quelque chose ?
Il y a tellement de choses.
Oui, c'est ça.
Ah, il y a une exposition qui va avoir lieu à la Grande Passerelle de Brecht Evans, qu'on est ravis d'accueillir.
Qui a réalisé l'affiche, d'ailleurs.
Qui a réalisé l'affiche cette année, l'année prochaine aussi. Et voilà, il va faire notamment, pour rebondir sur Brecht, une œuvre en direct dans la grande rotonde quartier du Palais du Grand Large, tout en transparence avec... un vitrail en direct qui va se créer dans toute la journée du dimanche. Donc ça va être quand même incroyable.
On a hâte. L'édito de cette année annonce une édition dédiée au sens, au sensible et à la relation. On va pas se mentir, ma petite liste quantitative faisait peut-être sens, mais pas de façon très sensible. Alors pour y pallier, je vous propose de vous mettre en relation avec une voix du passé. Voyez-vous, si les voyageurs s'étonnent en Thermalwyn depuis 26 ans, ici ça crache sur les ondes depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, c'est pas 26 ans, c'est 36 ans.
Oui.
En 2017, cette émission recevait Michel Lebris, cofondateur du festival en 1990 aux côtés de Christian Roland et Maëtte Chanterelle. Je vous propose d'écouter la façon dont il parlait des étonnants voyageurs, puis vous pourrez ensuite y réagir et commenter son propos.
Que la littérature n'est jamais aussi puissante et nécessaire que lorsqu'elle entre dans un rapport d'incandescence avec le monde, et que c'est d'autant plus urgent lorsque un monde disparaît, qu'un autre arrive, parce que ce sont les artistes qui disent d'abord l'inconnu du monde qui vient. J'ai connu 68, évidemment, et le fameux éditorial de Janson Ponté disant quelques jours, quelques semaines avant, la France s'ennuie. Il valait mieux écouter Bob Dylan pour savoir ce qui se passait, ce qui agitait l'esprit de la jeunesse. C'était ça qui m'intéressait. Capter la parole vive du monde à travers ce qu'en disaient les écrivains. Et pour ça, il fallait presque une petite révolution en France. Il fallait oser s'affronter à Saint-Germain-des-Prés, en gros. Et Saint-Malo, ça a été le rêve un peu dingo. On se disait, on va encercler Saint-Germain par le reste du monde. Et quand j'appelais Jim Harrison, j'appelais Crumley, j'appelais Alvaro Mutis, etc., ils disaient, oui, pas de problème, on vient. Parce qu'il y avait l'envie de défendre une même idée de la littérature, en fait. Et c'est à cette idée qu'on essaie de rester fidèle 27 ans après.
Lucie, Mona, une réaction ?
Ah ouais, ça fait tellement plaisir d'entendre Michel. Voilà, je pense que cet esprit qu'a insufflé Michel dès le début, il est vraiment toujours là de dire le monde. Cette formule est devenue un peu banale pour nous, on ose à peine la prononcer. Mais c'est ça en fait, c'est laisser la place aux mots, aux créateurs pour mettre en vie, pour mettre en sens, pour mettre en sensible en fait ce qu'on traverse et ce que traverse l'époque par le biais du texte, par le biais des mots, de la poésie, du roman, de la vibration que ça crée en chacun de nous. Et effectivement, il parlait des auteurs Crumley, Jim Harrison, etc., mais qui sont venus et qui ont fait aussi l'aura du festival. Et je pense que les écrivains, les artistes viennent toujours avec la même envie. Et il y a une sorte de convergence comme ça qui paraît tellement évidente. Et voilà, quand on est invité à un étonnant voyageur, je pense qu'on s'en fait une haute idée et on sait qu'on va vivre un bon moment de partage aussi et de sensible face au public. Et c'est aussi un rendez-vous des auteurs qui aiment se retrouver parce qu'ils savent qu'ils vont être ensemble sur des tables rondes, qu'ils vont pouvoir échanger. Il y a plein de moments de convivialité. Et ça se ressent vraiment dans l'esprit du festival, évidemment, toujours.
Puisque Michel Lebris le citait, on n'a pas pu s'empêcher de vouloir écouter un peu de Bob Dylan. On se fait une petite pause musicale avec le morceau « The Times They Are Changing ».
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call.
Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Vous êtes sur Syllab et vous venez d'entendre The Times They Are Changing de Bob Dylan, une pause musicale proposée par Jerry Crachet sur vos ondes. Ce soir, on reçoit Alice Mildrog et Mona Journeau pour parler du festival Étonnant Voyageur, un festival dédié à la littérature monde, né à Saint-Malo et essaimé depuis de par le monde, comme à Bamako, Port-au-Prince, Brazzaville ou encore Tunis.
Bonsoir Lucie, vous êtes directrice de production et coordinatrice de la programmation, comme on le disait en tout début de cette émission, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis le début. Comment est-ce qu'on fait sur un festival d'aussi longue date? Alors on a reparlé un petit peu de l'historique, de la création du festival. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à proposer une programmation qui est innovante, à surprendre son public dans un festival historique comme Étonnant Voyageur? Comment est-ce qu'on se renouvelle? Qu'est-ce qu'on propose?
Alors j'avais rencontré un directeur du Hey Festival avec qui on discutait de comment on faisait des festivals. Il m'avait dit, écoute, c'est simple, un festival c'est un requin. Si tu l'arrêtes de le faire bouger, il meurt. Donc, j'ai trouvé l'image assez jolie. Et en fait, c'est ça. Un festival, c'est une forme qui appelle en fait au renouvellement sans cesse. Et c'est ça qui fait la beauté du geste, je dirais. Et c'est vrai que d'avoir accueilli Mona dans l'équipe, par exemple, ça a été vraiment une bouffée de respiration, d'apport, d'enthousiasme, etc., qui nous manquait sans doute un peu et qui a vraiment fait qu'on s'est tous remis en branle, quoi. Et c'est être attentif chaque année, en fait, à l'actualité littéraire. Hein. Le festival, on le fait pas seul, on le fait aussi avec les éditeurs, avec les auteurs. Donc l'idée, c'est d'être un passeur. Et vous le disiez en introduction, le monde du livre est vaste et le nôtre, c'est d'être un passeur, en fait. Et ce rôle-là, il nous tient à cœur s'il est cohérent avec l'actualité. Donc on suit, effectivement, on adore avoir des primo-romanciers, par exemple, qu'on découvre. Et on est à l'écoute, en fait, des propositions des éditeurs. Voilà, moi j'ai ça. Et toute l'année, en fait, on se dit, mais pourquoi tu travailles toute l'année sur un festival qui a lieu pendant 5 jours? Mais en fait, c'est ça, ce travail. C'est à partir de septembre, octobre, on lance un peu les journées scolaires, on lance tous les projets qu'on a à l'année. Et puis, assez vite, on commence à se renseigner, c'est quoi l'actualité? Donc il y a les grands noms de la rentrée de septembre, et puis en fait on aime bien aussi se concentrer sur ce qui arrive au printemps, parce qu'en fait c'est aussi l'actualité, c'est aussi faire découvrir, c'est accueillir des grandes plumes du monde entier, effectivement, et puis de les mettre en relation sur des sujets des temps présents, en fait. Et donc on cherche aussi des formes, c'est vrai qu'on est attentif beaucoup à la poésie, à la mise en mots, donc chaque année on évolue, on fait des propositions, là on a une proposition autour du podcast, donc on parlera peut-être un peu après. Donc un festival c'est vivant, en fait, et c'est ça qui fait le bonheur de chaque année, recréer quelque chose.
Alors tu parlais du coup de l'actualité, etc. En 2023 déjà sur le festival, tu définissais sous la plume d'Agnès Séverin ce qui est pour toi la liberté. Tu disais, c'est de ne pas se mettre de barrières, de frontières, de se dire qu'il est possible de se laisser émouvoir là où on n'aurait pas pensé, et la liberté de ne pas s'arrêter. Tu dis que tu es une éternelle optimiste qui croit à la liberté d'expression dans ce qu'elle peut apporter, à la fois la liberté de créer et d'emmener les lecteurs. Cette émotion que procure le livre et que là, fait passer par la rencontre. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de cette question de liberté, de rencontre avec le livre, à la fois par l'édito dont on a parlé tout à l'heure pour cette année, mais aussi sur cette question où, à Étonnant Voyageur, vous avez des pays invités avec des artistes qui viennent de ces pays. Cette année, c'est le Liban. Enfin voilà, ça résonne beaucoup avec l'actualité et ça a quand même une importance forte pour le festival aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ou, enfin,
oui, Mona. Bien sûr. Alors c'est vrai que l'idée d'inviter le Liban, elle date pas de ces derniers mois en fait. On avait eu cette intuition et cette envie et déjà à l'issue du festival l'année dernière où on avait invité le Brésil en fait, on avait eu un partenariat avec un festival brésilien de Rio qui s'appelle La Flup. Et nous, en fait, ils sont venus avec on a choisi ensemble, en fait, une délégation d'auteurs brésiliens. Et puis, nous, on est allés à leur festival au mois de novembre avec des écrivains francophones dans cette relation et cette volonté de faire un échange. Et après le festival l'année dernière, on s'est dit, bon, alors, on invite qui l'année prochaine? Et puis voilà, par contact de Jean-Michel Le Boulanger, notamment, voilà, on a eu des sollicitations, des possibilités. On s'est dit, et quand on parlait de Liban, comme ça, autour de nous, tout le monde dit « Ah bah oui, évidemment !» Donc il y a un lien très fort, en fait, entre la France et le Liban, qui existe, qui est là, qui n'est pas forcément palpable pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui vibre, en tout cas. Donc on s'est dit « Mais oui, évidemment !» Donc on a contacté nos partenaires au ministère de la Culture libanais, aussi à l'Institut français, qui ont un festival aussi du livre, Beyrouth Livre, au mois d'octobre. Et tout de suite, tout le monde a dit « Mais oui, évidemment, évidemment !» Et donc, on a dit « Ben super, on y va !» Et les événements nous ont rattrapés, en fait. Et donc, on est d'autant plus touchés et heureux, en fait, de faire cette fenêtre ouverte sur la culture libanaise avec des écrivains, des cinéastes, des auteurs de bandes dessinées, de jeunesse, qui vont venir vraiment enrober le festival, lui donner une âme aussi. Et enfin, Mona pourra en parler, mais parce qu'elle était en contact avec notamment une autrice de bande dessinée, il y a une vraie envie, envie forte, forte, forte des Libanais de sortir pour dire ce qui se passe, pour dire de l'intérieur, comment on crée, comment on continue à être optimiste, comment on est intense et comment la richesse littéraire et culturelle est nécessaire dans ces moments de crise.
La question de la rencontre aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le festival, dans ces propos-là. On en discutait un petit peu en off avant l'émission, de cette question de la rencontre avec les autrices, avec le livre. Comment est-ce que ça s'articule dans la programmation, cette rencontre? J'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de créer de plus en plus ces espaces de rencontre lors du festival. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, c'est vrai que le festival, vous le disiez, c'est une dizaine, je crois que même il y en a 14 lieux dans toute la ville, de 10h du matin à 19h le soir. Donc du coup, la rencontre, elle est partout. Et l'idée, c'est de se faire rencontrer des auteurs sur des thématiques qu'ils ont à partager, qu'ils soient libanais, iraniens, espagnols ou français, évidemment. Et voilà, ce sont des tables rondes où les gens se retrouvent pour discuter d'un sujet ensemble qui les préoccupe. Mais il y a aussi des solos à des moments donnés où la rencontre se fait aussi, on parle de rencontre entre eux et avec le public. Et à ce moment-là, c'est des formes plus sensibles. C'est vrai qu'on a développé depuis quelques années beaucoup de vraiment introduire la lecture dans le festival. La lecture par les auteurs, autrices qui lisent eux-mêmes leurs textes, par des acteurs qui viennent lire aussi, par des formes, Mona vous en parlera, on a un joli petit chapiteau style Magic Mirror où il y a toute la programmation jeunesse et il y a aussi des lectures, des temps de rencontre. On fait une superbe séance autour de la poésie et de l'exil où on va vraiment entendre les mots. Donc ça, c'est vraiment construire la relation et la vibration et en fait, c'est tout ce qui insuffle les grandes directives de nos choix.
Justement, sur cette question des choix qui sont faits, alors il y a la question de la liberté où on ne se donne pas de frontières, pas de barrières quand on crée quelque chose. En tant que coordinatrice de la programmation, il y a à la fois une partie de liberté et une partie de contrainte aussi pour réussir à tout coordonner, à rester dans les lignes. Comment est-ce qu'on joue avec cette liberté, cette absence de frontières et en même temps les directives qui sont données pour réussir à créer la programmation si particulière d'Étonnant Voyageur, où on en parlait tout à l'heure, c'est du livre, mais c'est aussi du cinéma, c'est de la poésie, Il y a des expositions. Comment est-ce qu'on réussit à créer quelque chose de cohérent et qui fasse sens avec toute cette liberté qu'on a?
Ah, c'est toute la problématique de notre travail à l'année. En fait, on part d'abord des livres, on part d'abord des propositions des éditeurs et après on discute de grands sujets qu'on a envie d'évoquer. On a toujours ce prisme voyage, par exemple. On est attentif aussi aux ce qu'on appelle, nous, les gens de mer, donc c'est-à-dire des grands voyages, des voyages au long cours sur l'océan ou des rapports à l'univers maritime. Donc ça, c'est un peu des bases comme ça. Il y a la poésie avec Yvon Lemaine, bien entendu. Et donc on cherche des choses comme ça. Et puis après, il y a les grands sujets d'actualité. Donc, par exemple, là... alors, faut savoir, juste, j'ai pas encore dit, mais la programmation, on a un comité de programmation avec différentes personnalités qui le composent, et puis un délégué à la programmation qui est Serge Rouet, qui pilote ce comité et avec lequel on se propose des auteurs et on monte l'architecture vraiment générale du festival. Et c'est vrai que souvent, ce sont des thématiques très actuelles qui guident en fait nos choix, mais qui sont aussi celles des auteurs finalement. Donc avec ça, la difficulté, c'est uniquement d'articuler tout ça ensemble. On a depuis quelques années une thématique qu'on appelle la relation au vivant. Donc on voit bien qu'on est attentif aux formes. Qu'est-ce que la fiction nous dit que les récits ou les textes plutôt philosophiques ou des essais ne nous disent pas, voilà. Et qu'est-ce que par le roman, qu'est-ce que le romancier, la romancière sait mettre en œuvre pour décaler le prisme et répondre en fait à la crise écologique. Donc là, on a tout un axe comme ça. Et après, avec ces axes, on essaye de les questionner aussi à travers le cinéma. Et donc après, l'idée, c'est de réussir à combiner des séances de cinéma avec des films qui sortent aussi, des films récents ou des avant-premières françaises, étrangères. Et on articule comme ça des rencontres qu'on a créées entre des auteurs, des autrices et des cinéastes. Et on compose comme ça le puzzle petit à petit.
Merci beaucoup pour ces explications. Alors, Étonnant Voyageur, on le rappelle, ça aura lieu du 23 au 25 mai prochain à Saint-Malo. Est-ce que pour finir cette interview de vous deux, vous avez un petit coup de cœur dans la programmation, des recommandations en particulier à faire aux auditeuristes qui voudraient se rendre au festival, une ou deux nouveautés à surtout pas manquer au festival?
Alors, je dirais, venez pour écouter les Libanais. Il y aura vraiment plein de choses différentes, des débats, des films, du spectacle, de la bande dessinée, des soirées, une immense soirée poésie, le Rima Poésie Club, avec Rima Abdoulmalak, l'ancienne ministre de la Culture, qui est maintenant dirige L'Orient le Jour, le principal journal libanais. On va écouter, entendre des mots au son accompagné de musique, une belle soirée de concerts dessinés, lecture concerts dessinés avec deux géants de la BD, Charles Berberian et Michel Sandjovski. Et puis je dirais, moi j'ai un gros coup de cœur pour
partager.
Partager avec Mona sur un magnifique spectacle de Lisette Lombé et Marc Namour, Ce que le ventre dit, qui aura lieu donc au Châteaubriand le soir, parce que tous les soirs il y a plein de soirées. Et puis je dirais, il y a aussi, alors j'en ai pas parlé, mais c'est un monstre de la programmation cette année, Philippe Collin, le fameux Philippe Collin de France Inter, qui fera pour la première fois, c'est son avant-première, sa première, je ne sais même plus comment on dit, un spectacle sur scène d'une mise en scène d'un studio de radio où Eric Ruft, ancien sociétaire de la Comédie Française, va venir lire des textes donc autour de l'affaire Dreyfus, avec un historien sur scène et Philippe Collin. Donc là, c'est une forme complètement inédite. Ce sera la première. Il a envie de se lancer là-dedans. Il était venu l'année dernière au festival. Il s'est dit, mais oui, en fait, moi aussi, j'ai envie d'être sur la scène. Donc voilà, après, il y a plein de moments forts de lecture, plein de rencontres. Donc voilà, ce serait difficile de vous citer comme ça, mais venez.
Moi, je voulais peut-être faire un focus sur la bande dessinée et toute la partie. On en parlait justement que Étonnant Voyageur, c'est des rencontres entre des écrivains, des cinéastes et aussi des illustrateurs et donc tous ces auteurs qui travaillent plutôt la question de l'image. Donc, dire qu'on a la chance d'accueillir le spectacle de Hélène Usdin et Bonnie qui ont signé une BD qui s'appelle Détroit Roma, qui pour moi Et ce qui a été fait de plus fou en bande dessinée à la rentrée, Hélène Usdin, elle avait déjà signé la bande dessinée René au bois dormant, qui était aussi un monument. Donc je vous recommande vraiment cette... Donc ce sera une lecture dessinée musicale, avec donc du dessin live projeté sur la scène du chapiteau, et de la musique composée par Bonnie, qui est aussi... donc qui est co-réalisateur de la bande dessinée et qui est aussi musicien et qui a composé des morceaux qui accompagnent l'album. Donc ça, ce sera un grand moment au chapiteau. Et pour faire encore un pont entre la bande dessinée et le Liban, Lucie en parlait tout à l'heure, on accueille notamment Léna Merej, qui est une autrice et illustratrice de bande dessinée libanaise, qui depuis Beyrouth a énormément envie de venir et de transmettre son travail et ce qui se passe au Liban. Et elle proposera un atelier mobile pendant tout le festival, pendant le samedi du festival, où elle se promènera dans les différents lieux avec une planche et invitera les spectateurs et les personnes autour du festival à dessiner avec elle. Donc c'est vraiment, on parlait de créer la rencontre, là c'est vraiment aussi de trouver des formes pour connecter des auteurs, des illustrateurs avec le public, et donc d'aller créer la rencontre même dans des formes qui sont autres que juste, autres que les rencontres sur le plateau.
Un très beau programme pour le festival Étonnant Voyageur. On poursuit l'interview juste après. Restez avec nous sur les ondes de Syllab. On se fait une petite pause musicale avec Cœur de crapaud de Vincent Guigue. Cœur de
crapaud. Tu m'as encore déchiré le cœur. Mais je m'en fous, j'en ai plusieurs. J'en ai déjà usé pas mal avant que tu te fasses la malle. On a toujours un cœur de secours en cas de crevaison d'amour, caché quelque part sous le capot, prêt à aimer plein pot. Plein pot.
Fallait pas l'enflammer, ton petit cœur de crapaud. Il est tout boursouflé, maintenant il est pas beau.
Dès le début, on savait bien que cette histoire mènerait pas loin. Mais dès que la tendresse s'en mêle, c'est dur de défaire les ficelles. Pour soigner ce petit bobo, va falloir que je passe illico sur mon cœur du mercurochrome, sur mon foie un verre de rhum. De rhum.
Fallait pas l'enflammer, ton petit cœur de crapaud. Il est tout boursouflé, maintenant il est pas beau.
Cette nuit à te trouver si belle, ça m'a fait des étincelles folles. Tu avais les yeux du soleil, moi ceux des tournesols. Mais un tournesol sans soleil, ce n'est plus très fier au réveil. Sale regard planté par terre, à regretter hier. Remercier pour tes caresses et tes baisers, car quand on s'aime même qu'un jour, ça s'appelle déjà de l'amour. Tu m'as encore déchiré le cœur, mais je m'en fous, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, on n'était pas si mal allongés sous les étoiles. Étoiles. Fallait bien l'enflammer, mon petit cœur de crapaud. Il était tout gelé, maintenant il est tout chaud.
Fallait bien enflammer ton petit cœur de crapaud. Il était tout gelé, maintenant il est tout chaud.
Fallait bien enflammer ton petit cœur de crapaud. Il était tout gelé, maintenant il est tout chaud. Maintenant il est tout chaud.
Vous venez d'écouter Cœur de crapaud de Vincent Guy, vous êtes toujours sur la radio Syllabe. Mona, t'as un petit mot à nous dire pour nous expliquer le choix de cette musique.
Oui, alors on aura la chance d'accueillir Vincent Guy qui est donc musicien, compositeur et aussi auteur et qui vient de sortir un album jeunesse en collaboration avec Charlotte Lemaire qui est illustratrice et dessinatrice qui s'appelle Baveux anniversaire Icare, qui est l'aventure d'un escargot dont ses amis lui font la surprise d'un voyage en salade pour son anniversaire. Donc plein d'aventures à découvrir dans l'album et comme Vincent est aussi musicien, ils ont créé un spectacle qui fera sa première au festival, donc qui est pour un public à partir de 3-4 ans, où donc Charlotte Lemaire dessine et peint en direct les aventures de cet escargot et Vincent accompagne l'album avec donc des compositions qui ont été créées spécialement pour le spectacle. Donc on parlait tout à l'heure de la rencontre et de ce lieu, le chapiteau, donc ce sera un des temps forts pour le public jeunesse pendant le festival.
Et tous les diplômés BAFA applaudissent ce renouvellement musical autour de l'escargot. Donc par cette musique, on voulait introduire une nouvelle partie de l'entretien pour pouvoir un peu se focaliser sur la jeunesse. Il y a tellement de choses à être voyageur, il faut bien faire des choix. Donc là, pour la jeunesse, on se disait en rantaine qu'en fait, le Festival de la Jeunesse, il existait depuis toujours, mais j'avais l'impression qu'il existait autrement depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce renouveau du Festival de la Jeunesse et de ce qui vous anime, vous, dans l'équipe en animant, programmant ce festival-là?
Oui, du coup, effectivement, depuis Étonnant Voyageur, il y a toujours eu un festival de la jeunesse, mais peut-être depuis quelques années, on a eu envie de repenser qu'est-ce qu'on proposait autour des albums, autour des romans. Il y a toujours eu, donc, qui est quand même une grosse partie de la programmation, qui sont des ateliers qui sont à destination des enfants, des ados, des jeunes adultes, autour des formes à la fois d'illustration, de la bande dessinée et du roman. Ça a vraiment été le cœur de la programmation. C'était permettre au jeune public de rencontrer les créateurs, de créer avec eux, de participer et d'être vraiment dans un processus collectif autour des œuvres. Et depuis quelques années, donc on a ce fameux chapiteau L'Escale, qui est un chapiteau Magic Mirror, qui est pensé pour des formes vivantes, des formes spectacle autour de l'illustration jeunesse et aussi pour rentrer dans l'univers des auteurs. On a donc différentes formes qui n'étaient pas qui ont toujours existé, mais qui n'étaient peut-être pas mis en avant ou développées autant, et qui font aussi écho à un développement dans la littérature jeunesse et auprès des auteurs qui eux-mêmes développent des formes et actuellement pensent des albums avec des formes spectacle, des formes concerts dessinés, des formes lecture musicale. Enfin, c'est vraiment des propositions artistiques qui se développent en ce moment. Donc le festival se fait l'écho et accueille ces formes à destination de la jeunesse.
Je vous propose à présent de parler un petit peu de la tête d'affiche de la littérature jeunesse. Il y a des grands noms sur le festival, la jeunesse a le sien. Cette année, ce sera Magali Le Huche. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce choix?
Alors, Magali Le Huche, c'était une évidence pour plusieurs raisons. Déjà parce que son livre, donc Poisson Fesse, qui a quand même fait événement dans la littérature jeunesse ces dernières années, puisque c'est un livre qui a été édité par une toute petite maison d'édition indépendante qui s'appelle Les Fourmis Rouges, qui est d'ailleurs qu'on met à l'honneur au festival, puisqu'on l'invite sur le salon et on met en avant leur travail. Donc ça, c'est aussi une volonté de défense de l'édition indépendante jeunesse. Donc ce livre, Poisson Fesse, a vraiment fait événement et traduit dans de nombreuses langues, etc. Et Magali Le Huche, c'est aussi une figure importante pour la bande dessinée jeunesse et adulte. C'est quelqu'un qui a une manière de créer qui est, je trouve, joyeuse. Elle utilise énormément l'humour comme outil pour parler de sujets qu'on pourrait juger a priori difficiles pour la jeunesse, comme la question de la différence, la question du harcèlement scolaire, par exemple. Et on parlait aussi musique tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui s'appuie sur la musique, sur le dessin, sur la bande dessinée pour aborder ces sujets et les traiter avec humour. Du coup, ça nous paraissait évident que c'était la figure pour le Festival de la Jeunesse parce qu'elle est extrêmement inventive, qu'elle utilise l'humour, le dessin pour parler de sujets peut-être qu'on ne juge pas adaptée à un public jeune, et aussi parce qu'elle a énormément de propositions. Son programme va de donc un spectacle dessiné musical à une dictée dessinée pour les parents. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est aussi très prolifique dans les propositions autour de ses albums. Donc,
oui, pour les fixer le mot, elle compte déjà plus d'une centaine d'œuvres à son actif, notamment parce qu'il y a un investissement du format sériel avec Nonon, Paco, Jean-Michel. C'est un prérequis d'avoir des noms rigolos, je crois, pour les livres jeunesse. Mais il y a également la série des Mes Petits avec différents animaux qui rencontrent différents problèmes. Et donc, cette loi des séries sera discutée au cours d'un café littéraire en compagnie de Colas Gutmann. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, l'idée, c'était de parler du coup de ces albums sériels et de coup, ces personnages qui vivent d'un album à l'autre et donc qui se déploient, qui est vraiment un mode d'écriture, donc, comme tu le disais, de Magali Luch, mais aussi de Colas Gutmann, qui est l'auteur de Chien pourri, donc qui est vraiment un personnage fétiche des enfants, qui a donc compte, je crois, une vingtaine de tomes, plus adaptations en série télé et au cinéma. Et il se trouve que Magali Lehuche et Colas Gutmann viennent de collaborer ensemble pour un album qui s'appelle Johnny Fêtard et qui vient de sortir. Donc on trouvait ça intéressant de les faire dialoguer à la fois sur leur collaboration sur cet album et sur qu'est-ce que c'est de penser des personnages qui se déploient sur des dizaines de tomes et de comment ils travaillent cette écriture et la vie de ces personnages qui sortent des albums, qui vont même du coup au cinéma, parce qu'il y aura deux séances donc qui sont des séances de projection de films où on projettera Chien pourri, suivi d'une rencontre avec Colas Gutmann qui parle de l'adaptation et comment on adapte un album au cinéma. Et pareil avec Magali Lehuche, puisque Jean-Michel Le Caribou a aussi eu droit à sa version cinéma. Donc comment du coup les personnages des albums jeunesse sortent des albums et vont jusque sur le grand écran.
J'en viens à dévoiler mon objectif secret. J'étais à Ouest-Hurlant le 26 avril dernier pour assister à une table ronde qui s'intitulait « Quand les mots ne suffisent pas, la révolte ?» C'était animé par Hugo Aurin, historien spécialisé dans la Révolution et les littératures qui s'en emparent. Et il était en compagnie d'Estelle Faye, Ash Underscore, Alice Carabédian et de Gaëlle Aymon, auteur jeunesse. Et au moment où Hugo Aurin demandait à ses invités si la révolte venait forcément des marges. Plusieurs choses ont été dites, mais j'ai retenu la prise de parole de Gaëlle Aymon, qui expliquait qu'en tant qu'auteur jeunesse, il se retrouvait dans les marges, car c'était impossible d'exister dans le monde médiatique, littéraire comme généraliste, tant que l'on n'avait pas écrit à destination des adultes. Phénomène qui, à son sens, était signifiant quant à la considération que l'on accorde à la catégorie littéraire, mais aussi à ses destinataires. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aspirez à avoir un effet par votre travail sur le festival, mais aussi par vos actions culturelles réalisées tout au long de l'année ? C'est une grosse question, on pourra décortiquer par étapes.
Alors sur la question de la reconnaissance des auteurs jeunesse, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs illustrateurs jeunesse qui passent à la littérature dite adulte ou, comme on parlait de Magali Lehuche, à la bande dessinée. Je pense que ce serait à eux qu'il faudrait parler précisément de cette question de reconnaissance, de comment... Mais moi, je pense que... Enfin, on parle beaucoup que les enfants et les jeunes lisent moins, de ce déclin de la lecture et de l'attrait pour la littérature. Mais en fait, je pense que... Enfin, moi, je pense au contraire que c'est eux qui ont le rôle le plus important et que les livres qu'on lit enfants nous construisent notre imaginaire, construisent notre manière de notre rapport au monde et que finalement, peut-être, ils sont moins valorisés par un système éditorial, marchand par des sociétés qui valorisent plus des auteurs pour le public adulte. Mais pourtant, leur rôle, il est essentiel et c'est eux qui construisent les imaginaires. Et les imaginaires politiques des enfants de demain. Donc, en tout cas, au festival, ils sont vraiment considérés comme vraiment des auteurs à part entière et importants et essentiels. Donc, je pense qu'il faudrait leur demander à eux directement, mais moi, je considère que les illustrateurs, les auteurs de romans qu'on lit ados, c'est vraiment essentiel et ça nous construit pour le futur. Donc, peut-être...
Oui, ouais. je rebondis parce que je repense à Michel, là, quand on a entendu la voix. Il aimait bien dire, moi, je mets les mauvais genres au centre. Et en fait, il dit sans distinction de qualité entre elles, quoi. C'est-à-dire que très vite, et il l'a fait dès les années 90, il a mis la BD, la SF, toutes les littératures de l'imaginaire, d'ailleurs, le noir, le polar, tout ce qu'on disait, les mauvais genres, en fait, de les remettre au centre, y compris... cette même attention à, par exemple, les littératures de langue française qui sont traitées à égalité, qu'on soit français d'ici ou francophone d'ailleurs.
Et d'ailleurs, quand vous citiez la programmation des autres, enfin la délégation des autorités libanaises, vous avez bien précisé qu'il y avait également des auteurs jeunesse. Enfin, je me demandais en fait à quel point c'était conscientisé dans votre démarche en fait.
Ouais, ils sont vraiment associés. Enfin, par exemple, ça nous tient à cœur de les faire dialoguer avec des auteurs de BD, des auteurs adultes, et donc les auteurs jeunesse sont aussi conviés à des tables rondes, à des discussions qui sont pour le tout public. L'idée, c'est de les mettre en avant, mais de ne pas les enfermer dans une case. Et de toute façon, tout, enfin, comme le disait Lucie, toute la ligne du festival, c'est qu'il y a des rencontres, que ce soit pour eux, entre des cinéastes, des auteurs dits jeunesse, des auteurs de bande dessinée, des illustrateurs. Enfin voilà, que ce soit un moment de rencontre et de dialogue pour le public et aussi pour les artistes entre eux. Donc c'est effectivement ce dialogue et cette porosité entre les différents genres, qui pourraient être des sous-genres ou des, enfin voilà, c'est vraiment ce qui est au cœur des Tonnons Voyageurs, et c'est pour ça que, enfin, pour reprendre les mots de Lucie, c'est pour ça que on a à cœur de les faire dialoguer tous ensemble.
Et peut-être aussi, il y a une question de, si on est un petit peu dans la marge, on a la liberté dans le magazine que vous avez sorti tout récemment, qui sera bientôt disponible dans divers lieux de distribution rennais, ou en tout cas qu'il est déjà en ligne. On a un entretien avec Magali Lehuche qui parle du fait qu'elle soit allée vers la littérature jeunesse parce que c'était l'espace de la liberté la plus totale. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez chez d'autres auteurs-autrices?
En dehors de la littérature jeunesse
Est-ce que Magali Lehuche représente bien ses comparses?
Oui. Bah, je pense qu'il y a une liberté dans le... Quand, ne serait-ce que les formats des albums, il y a vraiment une liberté, je trouve, ces derniers temps sur les formats des albums, quand on parlait tout à l'heure, avec des chansons intégrées, de vraiment faire un peu exploser le format classique du livre ou de l'album, d'aller chercher dans la forme, dans des collaborations avec des illustrateurs, des musiciens, on parle des albums pop-up, enfin, il y a dans la forme une liberté, et aussi dans les sujets, finalement... Je pense que...
Aujourd'hui, les Cool Kids, finalement, c'est dans les rayons de La Courte Échelle et autres librairies jeunesse qu'il faut les trouver, quoi.
Oui, allez-y.
Eh bien, on va devoir s'arrêter là, mais est-ce que vous pouvez nous introduire la prochaine musique, puisque c'est toi, Mona, qui l'a choisie?
La prochaine musique, c'est Lemon de Bachar Marhalifi, qui est un artiste libanais que particulièrement j'adore et dont je suis très fan. Et on se disait que ça faisait écho avec notre programmation sur le Liban. Avec Lucie, on a rêvé mille fois qu'il vienne au festival, peut-être un jour.
Il viendra.
Il viendra.
En tout cas, on l'a déjà un petit peu dans nos oreilles.
طاب الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر عبي بحجره
الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه لك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعليدي يا بدر زهر الليمون عالشجر هز القلوب الحجر نوار ولما بدر شميت هوا عطر طاب الليمون عالشجر يميني هز
C'est Lemon de Bachar Mahalife, un choix musical suggéré par Mona, parce qu'un artiste libanais qui fait un festival qui dédie sa thématique phare au petit Liban, c'est... Non, le Liban au pluriel, petit pays, c'est une autre thématique. C'est la fin de notre émission consacrée au festival Étonnant à Voyageurs. Est-ce que, avant de se dire au revoir, vous avez un mot de la fin à apporter, quelque chose qu'il fallait absolument dire avant de se quitter ?
Mais en fait, on se dit, mais mince, on n'a même pas parlé de notre grand invité, qui est Pierre Lemaître, cette année. Donc, exceptionnel, parce qu'il ne fait pas du tout de festival. Ça fait plusieurs années que je travaille cette invitation. Et voilà, on est très contents de l'accueillir. Prix Goncourt pour Au revoir là-haut, il y a déjà plus de 10 ans, qui clôt sa série là. Et donc voilà, il y aura un grand entretien avec lui. Et puis un autre, il a souhaité, on lui a proposé, il a envie de recevoir. Et donc il parlera avec Donald Ray Pollock, qui est un grand auteur de romans noirs américains. Et Mona, c'est quoi ton coup de...
Mon petit mot de la fin.
Mon petit mot de la fin, c'est surtout venez... Osez entrer dans des salles où vous ne connaissez aucun des auteurs qui sont présents. Osez vous inscrire à des ateliers d'un illustrateur que vous ne connaissez pas, parce que Étonnant Voyageur, c'est aussi et surtout un énorme moment de découverte.
Merci beaucoup à vous. On rappelle que les Étonnants Voyageurs, c'est du 23 au 25 mai à Saint-Malo. On vous remercie d'être venu nous en parler avec autant de cœur. Un remerciement aussi à Amandine Lemansa pour la mise en relation. Sans elle, on ne serait pas là.
Exactement.
On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast, dont celle-ci, sur le site web de la radio SILAB, c'est sur le C-LAB. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, @JCSVO. Voilà, merci tout le monde et bonne soirée sur SILAB.
Merci à vous.